Et ce matin, je joins ma voix à celle de vos pasteurs pour prêcher sur le thème de la résurrection. C'est un thème formidable dans la parole de Dieu, un thème qui est important, qui est central, qui est vraiment central dans la vie chrétienne, le thème de la résurrection. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est Invincible. Combien vous savez que nous sommes invincibles? Que nous ne mourrons pas vraiment? Ça va être ça. Un jour, on va mourir, mais on ne va pas vraiment mourir. Si tu ne comprends pas trop, reste dans la salle ici. Plus d'explications à venir durant ce message. Et aujourd'hui, je veux qu'on regarde ensemble aux bénéfices que la résurrection de Jésus a et peut avoir dans chacune de nos vies. Et mon premier point ce matin, c'est l'assurance de la résurrection. Et on va lire ensemble dans le livre d'Apocalypse, qui est le dernier livre de votre Bible, un livre qui est fantastique, mais qui a parfois besoin d'explications. Mais le début du livre, il n'y a pas trop besoin d'explications, il est assez clair, assez facile à comprendre. Et on est dans le chapitre 1 ce matin, et je vous lis quelques versets qui nous... C'est Jean, et il nous décrit Jésus dans ces quelques versets-là. Vous êtes prêts? Yes, parfait. Il n'y a personne qui dort, est-ce qu'on va voir? Non, OK. Si vous vous endormez, ça se peut que je vous réveille avec un signe de la main comme ça, donc je vous check. Surtout mon ami Laurent qui est là ce matin. Qu'est-ce que vous connaissez, Laurent? T'es en visite ce matin, Laurent. Merci d'être là. Un homme de Dieu qui fait une œuvre extraordinaire depuis plusieurs années, fidèle dans le service pour le Seigneur, auprès entre autres des Premières Nations. Mais merci d'être là avec nous aujourd'hui, puis on est béni par ta présence, mon frère. On peut l'apprécier, notre frère Laurent. Merci. Merci d'être là. Donc, on va au verset 4 dans Apocalypse 1. De la part de Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père, à lui la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Et bien sûr, on pourrait prêcher ce texte-là pendant des semaines qui nous décrit qui est Jésus-Christ. Mais une des expressions sur laquelle je veux retenir votre attention aujourd'hui, je l'ai souligné dans le texte, le premier-né d'entre les morts. Et ça m'a accroché alors que je lisais ce texte-là. Jésus, on peut lui donner toutes sortes de noms, de descriptifs. Il est aussi le premier-né d'entre les morts. Et ça nous dit deux choses. Ça nous dit d'abord qu'il est ressuscité. Hein? Il est le premier qui est ressuscité, né d'entre les morts. Ça nous dit qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Et ça nous dit aussi que s'il est le premier-né d'entre les morts, que nous allons le suivre dans la résurrection. Ça implique aussi que nous allons, comme Jésus est ressuscité, nous allons, nous aussi qui avons placé notre foi en Jésus-Christ, nous allons aussi ressusciter et vivre éternellement. Vous êtes toujours là? Si on regarde un peu plus loin au verset 17 dans Apocalypse 1, voici ce que ça dit. Quand je le vis, Jean parle de Jésus quand il a vu cette vision de Jésus, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa la main sur moi, la main. Alors, je recommence. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, N'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et un autre descriptif de Jésus qui m'a vraiment touché ici, Jésus se décrit comme le vivant. Et c'est rare qu'on donne ce descriptif-là à Jésus quand on parle de lui, quand on pense à lui ou quand on prêche à propos de Christ. Et ce matin, je vais faire ça un petit peu interactif. J'aimerais ça que vous puissiez me donner des noms ou des descriptifs de Jésus qu'on retrouve dans la Bible. Donc, tu peux juste lever ta main et me dire un nom ou un descriptif de Jésus. Alors, allez-y.
Le pain de vie.
Le pain de vie. Yes. Il y en a plusieurs. La résurrection et la vie. Oui. Le lion de Juda. Prince de paix. Quand j'étais jeune, je comprenais prince des lapins. Hein? Bon, on peut impliquer qu'il l'est aussi si on veut, là. Parce qu'il y avait la chanson « Prince de lapin ». En tout cas. D'autres descriptifs de Jésus.
Je suis le grand je suis.
Je suis le grand je suis, oui. Dieu, Yahweh, je suis le grand je suis. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui? 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 La lumière. La lumière. Oh. Hein?
La parole.
La parole.
Alpha et Oméga.
Alpha, Oméga.
Le chemin, la vérité, la vie.
Oui.
Le premier,
le dernier.
Il est la porte.
La porte. Oui. Le bon berger. Et on pourrait continuer longtemps. Il y en a plusieurs. Ça pourrait être riche de faire même une série à un moment donné sur tous les noms de Dieu, les noms de Jésus, puis découvrir qui il est. Mais en ce dimanche où je prêche sur la résurrection, je m'arrête un instant sur le fait qu'il est le vivant. Il est le vivant. Cette déclaration me touche, me parle, m'encourage. Parce que Christ a vaincu la mort. Il est le vivant, il est le ressuscité, il est la résurrection et la vie. Et aujourd'hui, je vais commencer ce message simplement en mentionnant que le fait que Christ soit ressuscité nous offre un espoir pour notre propre vie. Ça nous offre une assurance pour notre propre vie que nous allons, nous aussi, suivre ses traces, suivre le même chemin par lequel il est passé de mort et de résurrection. Et nous pouvons avoir, en tant que chrétiens, cette assurance totale et absolue qu'il est ressuscité et que nous aussi, nous ressusciterons. Un extrait du chapitre 15 de 1 Corinthiens nous dit ceci, verset 16. « En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. » Et en fait, le chrétien a une vie, peut avoir une vie abondante avec Christ sur cette terre, mais il a aussi cette espérance que lors de sa mort, il vivra éternellement auprès de Dieu. La résurrection, nous vivrons éternellement auprès de Dieu. Et tu peux avoir cette espérance. J'ai rencontré plusieurs chrétiens dans ma vie qui doutaient de leur salut ou qui doutaient qu'ils allaient rejoindre Dieu pour l'éternité et qui avaient toujours, malgré leur foi en Christ, qui avaient toujours cette peur de la mort. Et si tu es dans cette situation ce matin, j'aimerais juste venir te dire que tu peux avoir confiance en Jésus, qu'il peut enlever dans ta vie la peur de la mort, qu'il peut venir te donner une assurance pour ta vie éternelle, que la vie ne va pas juste se terminer à ta mort, mais qu'elle va se poursuivre éternellement auprès de ton Dieu créateur, de ce Dieu qui t'aime. Et si tu es ici aujourd'hui et que tu n'as pas cette assurance, tu n'as pas cette conviction aujourd'hui et que tu es chrétien, Dieu veut venir déposer dans ton cœur une conviction totale que tu es son enfant, que tu lui appartiens. Mais il y a peut-être quelqu'un dans ce lieu que tu n'as pas cette conviction parce que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Parce que tu n'as pas encore reçu ce cadeau que Christ t'a offert. Ce cadeau de la vie éternelle, ce cadeau du pardon des péchés. Et je prends une parenthèse aujourd'hui parce que s'il y a même juste une personne ou quelques personnes dans ce lieu, que tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'es pas encore sauvé, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, je veux te donner l'opportunité, dans ce dimanche matin où on parle de résurrection, de faire ce pas et de donner ta vie à Jésus. Et tu pourras ainsi être pardonné de tes péchés et avoir une assurance complète et totale et solide que tu vas vivre éternellement toi aussi. Que ta vie ne se terminera pas à ta mort, mais que tu vas vivre éternellement auprès de Christ. Donc, si c'est pour toi ce matin, dans un instant, plus tard dans la réunion, je vais te donner l'opportunité de donner ta vie à Jésus. Peut-être que tu n'as jamais fait ce pas-là et je veux juste penser à toi ce matin dans le cadre de cette prédication-là. Et je reviens de ma parenthèse, 1 Corinthiens au verset 20, chapitre 15 au verset 20, « Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Jean 3,16 nous dit ceci, un verset que tout le monde connaît, même ceux qui connaissent très peu Dieu. « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et j'aimerais te rappeler aujourd'hui que tu peux avoir cette assurance complète et totale en Jésus que tu vas accéder à cette vie éternelle. Et bien sûr, on pourrait parler beaucoup de tout ça, le concept de la vie éternelle qui peut déjà commencer dans ta vie chrétienne aujourd'hui et se poursuivre pour l'éternité. C'est pas juste l'accès à un lieu paradisiaque un jour. Dès maintenant, tu peux vivre cette vie complète que Christ a pour toi et c'est disponible pour chacun d'entre nous. J'ai différentes passions dans la vie. Combien ici vous avez des passions, vous aimez faire des trucs, il y a des choses que vous aimez. Il y a même quelqu'un dans ce lieu qui est en train de bâtir un témoin qui travaille le bois pour faire quelque chose de créatif et artistique. On a tous ici des passions. Et une des passions que j'ai, moi, c'est le jardinage et les beaux jardins. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup. Et je ne sais pas si vous saviez, mais à 2-3 minutes d'ici, et à 30 secondes de certaines personnes dans ce lieu, il y a un des plus beaux jardins, un des plus beaux jardins du monde, en fait, qui est le jardin des 80. Et si vous n'avez jamais visité ce jardin, je vous invite à le visiter un jour. Et à un moment donné, alors que je courais, mon ami Martin m'a introduit à la course dans ce coin-là. Il y a des beaux sentiers chez Cabot, comme on dit ici. Et je courais, puis j'étais toute seule, puis je me disais, « Ah, je vais voir jusqu'à où je peux me rendre de ces jardins-là. » Tu sais, on n'a pas vraiment le droit de s'approcher d'une certaine distance. Puis je faisais un peu mon innocent, puis je courais tranquillement. Juste qu'à un moment donné que j'ai croisé un employé qui m'a arrêté de façon très claire. Qui m'a dit « Qu'est-ce que tu fais là? »« Ah, je cours, nanana. » »« Non, tu peux pas être ici, t'es trop proche. Tu peux aller jusqu'à telle distance, un peu plus loin. Va-t'en! » OK, là, je suis recouru un peu plus vite, là, tu sais, de cet endroit-là. Et c'était un lieu que j'avais pas le droit d'aller voir, que je pouvais pas aller à ce moment-là aller voir. Mais la semaine passée, ou l'autre d'avant, en tout cas dernièrement, c'était le fameux moment de l'année où on peut se procurer des billets pour aller visiter le Jardin des 80. Et j'étais devant mon ordinateur à 11h55, attendant qu'il soit midi, pour dès qu'il soit midi, parce qu'il ouvrait les inscriptions à midi, ça part rapidement, et dès qu'il était midi, tac, 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 tac. Et là, d'arriver, puis je savais ce que je voulais réserver, à quelle heure je voulais réserver, quel jour, ma carte de crédit était prête. Là, je réserve tout ça et j'ai réussi à avoir 2 places pour moi et ma femme. Et pour cet été, on va aller visiter une deuxième fois les jardins des 80. Et on a pris au mois d'août la plus tard et la dernière visite aussi pour avoir du coup. Le point est que l'accès à cette vie éternelle, l'accès à ce que Dieu a pour toi, t'a été offert gratuitement par Christ. Les billets pour l'éternité, les billets pour cet endroit que tout le monde voudrait vraiment, vraiment aller, hein, l'éternité avec Dieu. Si tu essaies d'y aller par toi-même en courant, à un moment donné, quelqu'un qui va t'arrêter, qui va te dire « Non, tu ne peux pas rentrer par toi-même de même. » Tu peux pas rentrer par tes propres forces. Tu peux pas rentrer juste en y allant comme ça. Ça marche pas de même. Tu dois avoir un billet. Et j'aimerais te dire que Christ t'a procuré le billet pour la vie éternelle. Et c'est gratuit. Tu n'as pas besoin de carte de crédit, tu n'as pas besoin de rien. Tu as juste besoin de lui donner ta vie, de recevoir son amour, de recevoir son pardon, de placer ta foi en lui. Il te donne ce billet gratuit, pas pour un jardin super que les gens veulent voir puis qui vont sur Internet pour le voir rapidement. Tu peux avoir un accès gratuit à la vie éternelle avec Christ. À cette assurance de la vie après la mort. C'est pour toi aujourd'hui. Reçois ce billet. Ne te prive pas de visiter, de passer l'éternité avec ton Dieu créateur. Est-ce que vous êtes là? Je prie vraiment que cette assurance de la vie après la mort, du paradis avec Christ, d'être dans cette relation intime avec Dieu pour l'éternité puisse être fondée en vous. Que ça puisse être solide en chacun d'entre vous. Que vous n'ayez plus peur de la mort. Je peux entendre « Amen ».
Amen.
Deuxièmement, la résurrection, c'est notre source de courage. Je vous lis quelques textes. Et juste avant de lire, c'est dans Actes 20. Et c'est l'apôtre Paul, il revient de son troisième voyage missionnaire où il implante des églises, où il fortifie, il enseigne, il forme des croyants, tout ça. Il revient et il va faire une pause lors de son retour pour parler avec les anciens de l'église d'Éphèse. Il va être avec eux dans Actes 20 et c'est un moment qui est touchant, vous irez le lire dans la Bible, un moment vraiment touchant où ils vont être ensemble, ils vont même pleurer ensemble, il y a cette connexion, cet amour pour eux, il va leur transmettre ses dernières paroles parce qu'il va dire c'est probablement la dernière fois qu'on va se voir. Il y a ce moment de cœur avec eux, ils sont à genoux, ils prient, ils sont touchés et à l'intérieur de ce moment-là, voici un bout de texte que je vous lis, verset 22. Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pas pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. J'aime ce texte. Ça nous donne une petite fenêtre sur l'état de cœur de l'apôtre Paul. Ici, il va dire, je m'en vais, puis l'Esprit m'avertit qu'il y a des liens et des tribulations qui m'attendent. Et moi, j'ai toujours été impressionné par la force de caractère et la persévérance de cet homme-là qui persévérait, qui continuait à prêcher, à aimer, à servir, à enseigner, à se déplacer malgré les liens et les persécutions et les tribulations qu'il éprouvait au cours de son ministère. Ça m'a toujours interpellé très fortement. Et alors que je prêche ce matin sur la résurrection, ce que je réalisais, c'est que cette assurance du salut et cette assurance de la vie éternelle, lorsqu'on la comprend réellement, elle est une source de courage et de force pour le chrétien, pour servir Dieu malgré les épreuves, les défis et les douleurs. Et moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Parce que tout le monde ici, on a envie des épreuves, des douleurs, de la fatigue, des difficultés, de la maladie, des conflits, des contrariétés. Et certains d'entre nous, tout ça nous amène à nous arrêter dans notre service pour Dieu. Mais ce que j'avais à cœur en préparant ce message aujourd'hui, c'est que le Seigneur voulait venir toucher certaines personnes dans ce lieu et vous encourager et vous redonner un courage nouveau. Courage nouveau qui vient de son esprit pour persévérer dans le service pour Dieu, malgré les difficultés, malgré les douleurs, malgré les choses difficiles que vous pourriez traverser ensemble. Quand on parle ici de liens, de tribulations, il y a un texte qui nous décrit plus en détail un peu les liens et les tribulations que Paul vivait dans 2 Corinthiens 11, ça dit ceci, à partir du verset 23. J'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment plus les coups, bien plus encore les emprisonnements. J'ai souvent été en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins un. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. J'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim, à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid, au dénuement. Et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Et ce texte-là me touche parce que c'est comme s'il ouvre sa vie sur vraiment tout ce qu'il a vécu, puis on peut lire certains de ces épisodes-là dans la Bible. Et malgré la dureté de ce qu'on vient de lire, puis la souffrance physique, émotionnelle, extrême que Paul a vécu, Paul a réussi à garder jusqu'à la fin une flamme, une passion, un désir de servir Christ de tout son cœur. Et ça me touche. Il y a quelque chose là-dedans
qui me touche, qui m'inspire. Et j'ai pris ici que nous soyons des chrétiens comme ça. Des chrétiens, je ne dis pas que vous allez vivre tout ce qu'il a vécu. Moi, à date, dans tout ça, je pourrais dire que j'ai vécu fréquemment en voyage. Peut-être le dernier, le souci des églises aussi. J'ai vécu peut-être un peu ça. Mais on ne m'a pas encore lapidé, on ne m'a pas encore... Et je ne pense pas que ça va m'arriver non plus, mais on ne sait-on jamais. Mais le point est le suivant, c'est que je veux garder mon courage intact, malgré ce que la vie me lance, malgré ce qui se passe dans ma vie, malgré les défis, les douleurs, les problèmes. Je veux garder mon courage intact, malgré les déceptions, malgré les tristesses, malgré les gens qui abandonnent en chemin, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer, les injustices qu'on peut vivre quand on sert le Seigneur. Je prie que le Seigneur garde notre courage intact. Et je prie ce matin, il y a des hommes, des femmes, des jeunes dans ce lieu, Dieu veut venir fortifier ton courage. En ce moment, spirituellement, tu es sur le neutre, tu es à terre. Mais Dieu veut venir te fortifier, t'encourager d'une façon surnaturelle. Malgré ce que tu vis, je ne te dis pas que tu ne vivras plus d'épreuves. Je ne te dis pas que tu ne vivras plus de défis, de douleurs, d'opposition. Ça fait partie de la vie et ça fait partie de la vie chrétienne. C'est normal. Mais ce que Dieu veut faire, c'est nous donner ce courage qui est appuyé sur le fait que je vais ressusciter. Entre autres, appuyé sur le fait que Christ est ressuscité, je ressusciterai aussi. Ma vie sur terre n'est pas la fin de ma vie. Et ça, c'est quelque chose qui me parle, qui me touche, qui m'encourage. Quand j'étais à l'école secondaire, des gens à l'école secondaire dans ce lieu, laissez-moi voir vos mains, ceux qui sont à l'école secondaire, vous êtes capables. Ouais, merci, merci de lever la main. Content de voir ce jeune homme que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Il a doublé de grandeur depuis que je l'ai vu. Et quand j'étais à l'école secondaire, il y avait les cours d'éducation physique. Et dans un des cours, on faisait de la trampoline. C'était super cool, là. C'était vraiment le fun. Mon prof d'éducation physique avait été ou presque été aux Jeux olympiques. Je n'ai jamais su vraiment la vraie affaire. Mais il était pas mal bon dans ces affaires-là, dans la gymnastique. Et à un moment donné, il y avait la trampoline ou le trampoline qu'on dit maintenant. Je ne sais pas pourquoi on a changé ça. En tout cas, et il y avait des élastiques comme ça autour de ta taille. Des élastiques avec des poteaux de même. Puis là, tu pouvais sauter sa trampoline puis essayer de faire des figures. Des vrilles, des flips, des toutes sortes d'affaires, sans mourir. ce qui est quand même une bonne chose pour quand tu es à l'école secondaire, de ne pas mourir dans ton cours d'éducation physique. Et là, j'étais là-dessus, puis j'avais du fun. Et là, j'essaie de faire un backflip. Là. Je fais un backflip. Là, je suis là-dessus. J'essaie d'en faire deux pour voir. Là, je saute. Et là, je réussis à faire deux backflips. Là, je continue à sauter. Là, mon prof, il me regarde. Il dit, ouais, t'es pas mal bon, j'avais 14 ans. Puis là, il me dit, t'es pas mal bon. Il m'a même dit une phrase, ça me boostait dans mon estime. Il m'a dit, hey, si on t'avait appris un peu plus jeune, là, t'aurais peut-être pas allé aux Olympiques. Je dis, oh, je l'ai l'affaire, là, tu sais. Je suis capable de faire deux backflips sur une trampoline, j'aurais pas allé aux Olympiques. En tout cas, c'est exagéré, peut-être. Mais ça m'a fait du bien cette journée-là. Et j'ai toujours aimé ce qui était un peu intense comme ça. Et pourquoi j'ai réussi? Faire deux backflips, il y a une raison très simple. J'avais des élastiques attachés après ma taille. C'est juste pour ça. J'avais le courage de faire des choses que je n'aurais pas fait avant. Pourquoi? Parce que j'avais la sécurité. J'étais sécure. Et cette sécurité-là m'a donné le courage de faire des figures incroyables. Je te dis, c'est incroyable. Mais spirituellement, le fait que nous avons la sécurité de la vie éternelle, le fait que nous savons que même si on meurt pas, qu'on va rejoindre le Seigneur, ça nous donne du courage. Ça nous donne une force parce que qu'est-ce que peuvent nous faire les hommes? Au pire, ils nous tuent puis on meurt même pas. Mais suivez-vous, ça nous donne une force. Un courage de savoir que nous ne sommes pas seuls, que Christ est avec nous et que nous avons cette possibilité de le servir et que même si on me prenait ma vie, je ne serais pas perdu. Je vivrai éternellement avec lui. Le fait que nous ressusciterons nous donne du courage pour vivre pleinement pour Christ, peu importe les défis, de vivre sans filet,
Allez pas faire deux backflips si vous n'avez pas de. Si vous n'avez pas compris, c'est ça l'affaire. Là. Mais nous avons une vie qui nous attend après cette vie-là. Les vieux jeux vidéo, le jeu de Mario Bros, tu pouvais accumuler des vies. Hein, je pense qu'on prenait des champignons, là. Et puis, les nouveaux aussi, c'est comme ça, là. Et puis, tu peux avoir des vies. Et dans les tableaux qui sont plus difficiles, il y a des endroits où il fallait que tu sautes, puis des fois, tu n'y arrivais pas, puis tu tombais dans le trou, puis ça marquait « game over ». Mais tu avais le courage d'essayer de sauter loin quand tu avais des vies. Vous me suivez? C'est la même chose avec la vie chrétienne. Tu as le courage de faire des choses pour Dieu parce que tu sais que ta vie appartient à Christ, que peu importe ce qui t'arrive, même si tu mourrais, tu vivrais et tu irais rejoindre le Seigneur. Je prie aujourd'hui que le Seigneur te redonne du courage pour servir dans l'Église. Peut-être que tu as été blessé, déçu, tu as vécu une injustice et on te demande pardon pour ça, mais en même temps, on te dit que c'est normal. C'est malheureusement, ça arrive. Mais Dieu veut te donner du courage de continuer de servir malgré tes blessures et tes difficultés. Dieu veut te donner du courage pour prendre soin des gens qui nous entourent. Dieu veut nous donner du courage, peut-être pour certains, pour faire des études bibliques. Du courage pour parler de Dieu, évangéliser, parler de Dieu à quelqu'un qui t'entoure, à ton travail, dans ton voisinage. Du courage pour servir Jésus avec passion et avec vigueur parce que nous vivrons éternellement. Et que même s'il peut y avoir des défis reliés à tout ça, je sais que Dieu prend soin de moi. Est-ce que je peux entendre un autre « Amen » ? Donc, nous avons cette assurance de la résurrection, cette assurance de la vie éternelle. Cette assurance nous donne du courage pour vivre pleinement pour Dieu. Et cette assurance nous redonne des forces pour vivre pleinement pour Dieu. Et mon troisième point ce matin, et vous allez voir, je m'en vais un peu ailleurs. Mais c'est vraiment un point qui, c'est quelque chose qui pesait sur mon cœur alors que je pensais à cette réunion ce matin. Et mon troisième point, c'est le Dieu qui redonne la vie aux morts. Et je vous amène dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel, chapitre 37. C'est une vision que va avoir le prophète Ézéchiel. Et je ne vais pas lire tout le moment, je vais lire quelques versets et je vais commenter par la suite. Ézéchiel 37, verset 1, « La main de l'Éternel fut sur moi. » Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? » Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Et bon, je continue dans un instant, mais il y a cette vision-là, une vallée remplie d'ossements humains. Et la Bible nous dit, et ces mots ont résonné en moi, les ossements étaient fort nombreux. Et ils étaient complètement secs. Et alors que je lisais ça, que je réfléchissais à ça, il y avait cette pensée-là dans mon cœur que spirituellement, nous vivons quelque chose de semblable ici au Québec. On vit parmi des gens qui, bien qu'ils soient vivants, qu'ils marchent dans la rue, qu'ils mangent, qu'ils travaillent. Nous vivons au milieu d'un peuple qui est fort nombreux, mais qui est complètement sec, spirituellement, qui est mort spirituellement. Il ne reste que les ossements desséchés spirituellement. Et ça représente spirituellement le monde dans lequel on vit, le Québec qui nous entoure, Charlevoix qui nous entoure. La bonne nouvelle, c'est que les textes continuent ici. Verset 9, il me dit, « Prophétise et parle à l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des quatre vents. » Juste ici, pas loin des quatre vents. « Souffle sur ses morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'Esprit entra en eux. Ils reprirent vie, se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, c'était très nombreuse. » Et alors que je priais dans les derniers mois, dernières semaines, j'avais vraiment cette image que Dieu veut redonner vie à ce qui est mort. Alors qu'on parle de résurrection aujourd'hui, Dieu veut venir trouver les gens qui sont autour de nous. Peut-être qu'il y en a ici ce matin qui spirituellement sont desséchés, sont morts. Et il veut venir redonner la vie. Ça peut être tes amis à l'école secondaire, ça peut être tes collègues au travail, tes voisins, les membres de ta famille, les gens que tu croises dans la rue. Dieu veut venir redonner vie à ce qui est mort, à ce qui est sec. Et parfois pour nous, ça semble impossible. On connaît des gens pour qui on pense que c'est impossible qu'ils revivent tellement ils sont secs et éloignés de Dieu spirituellement. Mais Dieu, c'est le Dieu de l'impossible, comme on l'a chanté tantôt. Et il redonne vie même à des ossements desséchés. Même quand ça semble complètement fini, impossible, il peut encore redonner la vie à ce qui est mort. Et ce que j'aime là-dedans aussi, c'est que la vie des ossements desséchés qui est revenue en eux, c'est l'initiative de Dieu. C'est Dieu qui a dit à son prophète, « Prophétise, prie, puis la vie va revenir. » C'est Dieu qui a initié. Mais nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, partenaires et complices dans la vie qu'il va redonner aux gens qui nous entourent. Donc, ça m'a pris longtemps dans ma vie de comprendre le fait que Dieu initie, que Dieu, c'est lui qui fait le chemin avant nous autres. Et alors que dernièrement, on a vécu un 3-4 ans assez spécial à Drummondville, où nous avons, par la grâce de Dieu, implanté une église là-bas. Et aujourd'hui, des fois, plus que 500 personnes dans l'église, c'est miraculeux, c'est vraiment wow. Et j'aimerais vous dire que c'est de ma faute, mais c'est pas de ma faute. J'ai été complice, oui, mais ça a été l'initiative de Dieu. Dès le jour où j'ai reçu le coup de téléphone de Pasteur Mark m'invitant à devenir pasteur implanteur là-bas, on avait ce sentiment-là, moi et Lison, on avait ce sentiment-là que Dieu nous précédait. Que Dieu marchait en avant de nous. Et c'est comme juste... hier, je suis allé marcher sur un terrain, puis il y a encore de la neige ici dans Charlevoix, là. Et à un moment donné, ça allait jusqu'aux cuisses. Et c'est comme si Dieu avait préparé le chemin devant nous. Ça s'est fait pas sans douleur, pas sans difficulté, mais c'était pas si dur quand même. Je peux dire entre guillemets comme ça. Ça n'a pas été si difficile. Dans le sens que Dieu avait préparé le chemin, on arrivait là, on faisait une réunion simple, comme on fait en ce moment, puis à chaque semaine, toutes les semaines, il y avait des nouveaux et des visiteurs, et à toutes les semaines, il y avait des gens qui donnaient leur vie à Jésus. Toutes les semaines, toujours, tout le temps. Baptême d'eau, disciples formés, on a vécu une saison où Dieu a marché devant nous pour redonner vie à des ossements. Puis là, on n'est plus là, mais Dieu continue de le faire encore. Dieu bénit encore. Et moi, j'avais dans mon cœur cette prière-là, de dire, « Seigneur, initie donc quelque chose de majestueux, de miraculeux ici. Il ne manque pas d'ossements desséchés. Dans l'est du Québec, en Gaspésie, un peu partout, il ne manque pas d'ossements desséchés. Moi, je prie que Dieu vienne agir et souffler et redonner vie à ces ossements, mais je prie que nous soyons complices là-dedans, que nous soyons de ceux qui allons prier pour la vie, de ceux qui allons prier pour le salut, de ceux qui allons se rendre disponibles et dire, « Seigneur, je viens comme Ézéchiel et je viens prophétiser et je viens prier avec vie afin que la vie revienne dans ces ossements desséchés autour de moi, ici dans Charlevoix et partout au Québec, Seigneur, que la vie revienne. » Est-ce que vous avez cette prière dans le cœur, vous aussi? Cette prière m'habite, cette prière m'anime. Et je crois de tout mon cœur que Dieu nous précède, que Dieu prépare quelque chose. Il se cherche des personnes avec qui il va, des complices, des gens disposés, disponibles, pas parfaits, bien sûr, prêts, mais prêts à servir, prêts à aimer, prêts à donner, prêts à s'impliquer, prêts à s'investir, prêts à se pardonner les uns les autres et conserver un lien d'unité qui est puissant, qui est fort, qui va nous permettre de traverser les tempêtes. Et je crois que Dieu veut le faire ici, dans cette église. Dieu le fait déjà, il nous précède, mais je crois qu'il veut accentuer son action. Son retour est proche, je crois que Dieu veut accentuer son action au milieu de nous. Et je vous pose la question, combien vous voulez être
participant à ça. Vous voulez participer à ce que Dieu fait. J'ai invité les musiciens à revenir. Alors, on va prendre un temps de prière ensemble bientôt. Avant de prier ensemble, tantôt je vous ai dit que je vous lancerai l'opportunité de recevoir Jésus. Et je vais faire ça en ce moment. Je l'invite à fermer les yeux un instant, à vous recueillir par respect pour les autres. Et ce matin, s'il y a quelqu'un dans ce lieu, juste un peu moins fort le piano, s'il vous plaît. S'il y a quelqu'un dans ce lieu ce matin qui t'es ici, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu connais le nom de Jésus. Visiblement, tu viens à l'église ou tu es déjà allé à l'église aussi avant. Mais tu n'es pas encore né de nouveau. Ton corps est là, mais spirituellement, tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'as pas encore abandonné complètement et totalement ta vie entre les mains de Christ. Et ce matin, c'est ton jour, c'est ta chance, c'est ton opportunité. Je t'invite pas à changer de religion, mais je t'invite aujourd'hui vraiment à reconnecter avec ton Créateur. Je t'invite aujourd'hui, dans la simplicité de ce moment, à t'offrir à Christ complètement. Qu'est-ce que ça va impliquer? Ça va impliquer de reconnaître que tu es une personne imparfaite et pécheur. De le reconnaître et de dire à Dieu, « Mon Dieu, pardonne-moi pour mes fautes, mes péchés, mes manquements. » Ça m'impliquait aussi de dire, même si je ne comprends pas tout, Dieu, aujourd'hui, je choisis de croire en toi. Je place ma foi en toi. Ce que ça va impliquer aussi peut-être, non pas peut-être, ça va impliquer aussi que ta décision de suivre Christ devienne publique. Non pas seulement intérieur, mais que ça devienne public éventuellement. Par le baptême d'eau, par le fait que tu vas dire et proclamer que tu es chrétien, que tu crois en Jésus. Et ça va te donner, tu vas avoir accès à la vie éternelle. Tes péchés vont être pardonnés. Il va y avoir cette reconnexion avec ton Créateur, avec le Dieu Créateur. Donc, si tu es ici ce matin et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus et que tu aimerais le faire, je t'invite à lever une main devant Dieu et à dire, « Moi, je donne ma vie à Christ aujourd'hui. Moi, je donne ma vie à Christ aujourd'hui. Je le fais sincèrement, je le fais de tout mon cœur, je le fais humblement. Je sais que je ne suis pas parfait, mais je donne ma vie à Jésus aujourd'hui. C'est mon jour, c'est mon moment. Je m'abandonne à lui. » Quelques mains qui se lèvent ce matin. Merci, merci pour, au-delà de ta main levée, de ton cœur sincère qui se tourne vers Christ dans ce moment. Tu as levé la main, tu peux la rebaisser par la suite. Trois personnes, trois mains levées ce matin. J'aimerais prier pour vous avant d'aller plus loin dans la réunion. C'est un moment qui est précieux, c'est un moment qui est pivot, c'est un moment qui est important pour vous trois ce matin. Alors, je t'invite à fermer les yeux, je vais prier pour toi et prier dans ton cœur avec moi alors que je vais prier pour toi. Seigneur, je te prie pour ces personnes ce matin qui te donnent leur vie. Seigneur, qui s'abandonnent à toi. Seigneur, qui te demandent pardon pour leurs péchés, qui veulent confesser qu'ils sont chrétiens, qu'ils t'appartiennent. Je te prie pour eux maintenant. Je prie, Seigneur, que ce moment soit un moment décisif, vrai, intense. Que ce moment soit pivot pour toute leur vie. Je te prie, Seigneur, que maintenant, alors qu'ils se tournent vers toi avec repentance, que tu puisses témoigner à leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu, qu'ils puissent savoir en dedans d'eux que maintenant ils t'appartiennent alors qu'ils te donnent leur vie. Seigneur, que ce soit un moment spécial. Je te prie que tu les accompagnes. Je prie, Seigneur, que l'ennemi ne vienne pas voler cette semence qui est dans leur cœur, mais j'ai prié qu'ils marchent avec toi, qu'ils persévèrent dans leur vie chrétienne. J'ai prié qu'ils te découvrent. J'ai prié qu'ils découvrent ta parole, la Bible. J'ai prié qu'ils viennent à l'église. J'ai prié, Seigneur, qu'ils se fassent baptiser. Seigneur, mets ta bonne main sur ces personnes aujourd'hui. toute l'Église prie pour vous aujourd'hui. Vous êtes précieux, vous êtes importants, on prie pour vous. On prie que ce soit un moment extraordinaire et que ça puisse impacter toute votre vie. Au nom de Jésus qu'on a prié. Amen. On peut garder les yeux fermés parce que je veux aussi prier un instant pour tous les croyants de cette Église. On va chanter bientôt, mais ce matin, on a parlé de résurrection, on a parlé de ce courage que le Seigneur veut nous redonner, de cette force, de cette passion que Dieu veut nous redonner pour le service, et aussi cette prière d'intercession pour les ossements desséchés, pour les gens qui nous entourent, qui ne connaissent pas Christ encore, qui n'ont pas reçu Jésus encore. Et j'ai prié que le Seigneur nous anime, que le Seigneur anime son Église aujourd'hui, que tout le monde ensemble, on puisse retrouver le courage, que tout le monde ensemble, on puisse retrouver cette prière pour les gens qui nous entourent et que Dieu qui veut que toute âme soit sauvée puisse animer nos prières, animer cette prophétie qui sort de notre bouche comme le prophète Ézéchiel, cette parole de foi, d'espoir et de prière et d'intercession pour les gens qui nous entourent. Est-ce qu'on peut tous se lever ensemble dans la présence de Dieu en terminant ce matin? Et alors qu'on se lève ensemble, je t'invite tout simplement à t'offrir à Jésus, à offrir ta vie à Christ, à offrir ton cœur. Peut-être que tu as perdu cette passion, peut-être que tu as perdu pour différentes raisons ce courage de servir, ce courage de témoigner, ce courage de prier et d'intercéder. Et que le Seigneur aujourd'hui, par son Esprit, ravive nos esprits, ravive nos âmes, ravive nos cœurs, que nous puissions être participants à ce que Dieu fait ici, dans Charlevoix. Alors, on va chanter ce chant et je t'invite à connecter avec ton Créateur. Tu peux prier, tu peux chanter les paroles, mais que ce moment soit un moment de connexion divine avec Jésus, qui est présent au milieu de nous. Chantons ensemble.